Deuxième pièce, là, il y a un moment où ils sont en fuite, ils se sont déguisés, et Sganarell est déguisé en médecin. Et il est content, il dit « Oh là là !»
Savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération. Je suis salué des gens que je rencontre, et qu'on vient me consulter ainsi qu'un habile homme.
Commandant,
c'est un coup paysan ou paysanne, en me voyant passer, sont venus demander mon avis sur différentes maladies.
Chaque fois que je rencontre des gens, ils me demandent des ordonnances et tout. En gros, l'habit fait le moine, qu'ils commentent, etc. Et commentaire ironique de Don Juan.
Par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi à la guérison des malades et tout le rare et pur grimace.
Comment, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine?
Comment, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine?
Et donc là, on voit bien qu'il y a une sorte de transfert de la critique des dévots et qui va se déporter sur la figure du médecin, qui est une autre figure d'autorité, c'est-à-dire à travers la satire du médecin, se perpétue et se continue la satire de l'homme d'église. Il y a une proximité évidente entre les figures. Le médecin, comme le dévot, sont habillés de noir. Le médecin, comme le dévot, parle un jargon incompréhensible, un latin de cuisine.
Les symptômes qu'elle a sont indicatifs d'une vapeur fuligineuse et mordicante qui lui picote les membranes du cerveau. Or, cette vapeur, que nous nommons en grec atmos, provient d'humeurs putrides, tenaces et conglutineuses qui sont contenues dans le bas-ventre.
La médecine, c'est tout ce qui flatte la crédulité humaine et la peur des hommes de mourir, exactement comme la religion. C'est ça qui explique la naissance chez Molière de ce filon médical qui va le conduire jusqu'à sa dernière pièce, Le malade imaginaire, sans qu'il ait été pour autant malade, parce qu'on a souvent mis le cas sur le fait qu'il s'intéresse à la médecine parce qu'il est malade. Il se trouve qu'il tombe malade une première fois en 1666, puis il est encore malade en 1667, et puis après, plus jamais. Ça, on le sait bien, parce que tous les gazetiers ont les yeux fixés sur Molière. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui la presse « people » est centrée sur Molière comme elle est centrée sur les princes du sang ou les grands seigneurs, etc., etc.
Don Juan est un immense succès et, sans surprise, l'objet de virulentes attaques de la part des dévots. En 1667, Tartuffe, pourtant remanié, est de nouveau interdit. La pièce ne sera autorisée dans sa version actuelle que 2 ans plus tard. Molière est-il blessé, fatigué par ce long combat? Toujours est-il qu'il demande au roi la permission de pouvoir se mettre un temps en retrait. Pour la première fois, on ne le voit pas sur scène. Avec Armande, ils s'installent dans leur maison d'Auteuil, à la campagne.
Je pense, comme l'a dit Victor Hugo, que Molière est à la fois Alceste et Philinte. On vient de parler des relations fortes qu'il avait avec le roi. Évidemment, il était Philinte. Et je pense en même temps que l'artiste, que l'auteur, que le comédien, que les tourments, que la solitude qu'il évoque dans l'Impromptu de Versailles, le pousse bien entendu du côté d'Alceste.
Le ciel ne m'a point fait en me donnant le jour une âme compatible avec l'air de la cour. Je ne me trouve point les vertus nécessaires pour y bien réussir et faire mes affaires. Être franc et sincère est mon plus grand talent. Je ne sais point jouer les hommes en parlant. Et qui n'a pas le don de cacher ce qu'il pense, doit faire en ce pays fort peu de résidence.
Ils sont beaux, ces personnages. C'est une part presque romanesque chez Molière, où tout d'un coup, il n'a plus souci de faire rire. Il a encore le souci un petit peu de la critique, évidemment, mais il a beaucoup le souci de l'âme, de l'âme, pas au sens chrétien, mais du remugle, du matériau humain, de quoi nous sommes faits. Et Molière était les deux. Donc je pense vraiment que Molière avait... Philinte parle très bien, donc c'est Molière qui le fait parler. Donc ces arguments-là, ils sont fondés, il les a.
Je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plaît. Tout marche par cabale et par pur intérêt. Ce n'est plus que la ruse aujourd'hui qui l'emporte. Et les hommes devraient être faits d'autre sorte. Est-ce une raison que leur peut d'équité pour vouloir se tirer de leur société? Tous ces défauts humains nous donnent dans la vie des moyens d'exercer notre philosophie.
Et en même temps, il ne peut pas s'empêcher de laisser parler l'atrabilaire hein, et celui qui dit « ouais, d'accord, mais non ». Ce Molière-là, il se dit beaucoup dans ces pièces-là, parce qu'il ne se cache pas derrière le comique. Alors que je pense que l'homme, l'acteur, le chef de troupe, l'homme d'argent, celui qui finalement est entre le misanthrope et Philinte, qui est entre la détestation absolue et en même temps une capacité au compromis sans compromission. Mais enfin, voilà. Donc, il a touché à tous ces territoires-là, ce qui en fait une figure finalement pas facile à désigner, tellement il a été plein d'hommes et d'êtres à la fois. Son théâtre le dit, d'ailleurs.
L'éloignement de Molière à Auteuil sera de courte durée. Car Louis XIV, malgré les cabales et les excommunications, lui conserve sa confiance et a besoin de lui pour ses fêtes. Lorsque la cour se déplace pour plusieurs semaines dans une des résidences royales, le monarque demande souvent à son comédien favori et à sa troupe de le suivre. Ses séjours se transforment en autant de festivals Molière. Ainsi, c'est à Chambord que Molière crée, en 1670, le Bourgeois gentilhomme. Une pièce commandée pour la visite, qui va s'avérer désastreuse, d'un émissaire de l'Empire turc. À l'issue de cet incident diplomatique, la turquerie se transforme en bouffonnerie.
Voici le maître du logis.
C'est pas parce que c'est Molière que c'est sacré. Enfin, je veux dire, il fallait s'enlever le poids de cet immense personnage.
Il y a quand même énormément de gens, on dirait qu'ils l'ont connu, qui disent « ça c'est Molière, ça c'est comme ça que ça se montre ». Enfin, moi je trouve ça incroyable. Surtout, quand on regarde les pièces, il y a plein de différentes manières de le monter, de comprendre les pièces. Il y a beaucoup de choses quand même, c'est très riche comme écriture, il y a des choses très actuelles, il y a des choses qui sont plus floues, donc on peut les comprendre comme on veut, mais moi je trouve ça très très impressionnant et prétentieux de dire « ça c'est Molière yeah ».
Tout revient à cette grande question du respect et de l'irrespect, qui est une question fondamentale au théâtre, en tout cas lorsqu'il s'agit de répertoire. Ce qui est une manière de temps en temps de respecter le répertoire à la lettre, d'en faire une étude tellement attentive et tellement respectueuse qu'on n'ose rien bouger. Donc finalement, on confine à l'irrespect parce qu'on tue le jus de ces œuvres-là.
La tête droite, le regard assuré. Et avancez. Oui, oui, le corps ferme, oui. Touchez-moi l'épée de carte, achevez de même. Remettez-vous.
Je peux pas dire, il faut pas le respecter, mais je ne peux pas non plus dire, il faut absolument le respecter, parce que l'absolu respect amène à minéraliser les choses. On devient des bustes, tout devient un buste, voilà. Et de temps en temps, je reçois des lettres où les gens me disent « rendez-nous notre Molière ». Voilà, parce qu'on a fait une mise en scène un peu olé-olé, et à chaque fois je réponds « vous parlez duquel ?» Si c'est le Molière du péristyle, c'est pas exactement ce qu'on doit respecter de ce Molière-là.
Dans Le Bourgeois Gentilhomme, M. Jourdain rêve de noblesse. Dupé par ses proches, il sera ridiculisé au terme d'une cérémonie bouffonne qui le sacre grand mamamouchi.
En fait, il a voulu rêver plus grand et tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Et c'est terrible. Et en même temps, c'est vachement beau, quoi. Mais même, on retrouve ça chez La Fontaine aussi quand on lit ses fables. Et c'est magnifique de clairvoyance d'avoir pu écrire autant et que ça touche à ce point-là et que ce soit tout autant moderne 400 ans après, c'est quand même impressionnant.
Dans Le Bourgeois Gentilhomme, la manière dont un homme peut avoir envie de se pousser vers un milieu qui n'est pas le sien, l'aspiration à briller qui, au bout du compte, vous laisse sur le carreau sans rien, avec un balai de toilette en guise de sceptre. La chasse à l'homme de Pourceaugnac, la manière dont un groupe peut tout à coup mettre au banc une personne, quitte quasiment à le faire mourir, à le faire crever, c'est malheureusement des choses qu'on voit tous les jours. On a parfois l'impression que les comédies-ballets sont presque des œuvres un peu mineures par rapport aux misanthropes, aux tartuffes de Don Juan. C'est faux, il y a une vraie continuité là-dedans. La noirceur de ces comédies-ballets, Pourceaugnac, Dandin, Le Bourgeois, mais même évidemment Le Malade Imaginaire, cette noirceur, c'est leur singularité, c'est toute leur force. C'est-à-dire que sur le papier, on peut se dire, ah bah oui, alors tout à coup, une œuvre totale qui mêle le théâtre, la musique, la danse, on peut imaginer une chose un peu jolie. C'est pas du tout joli, Molière, c'est ça qui lui permet de traverser les siècles. C'est cruel parce que c'est lucide. C'est ça qui est terrible.
Molière, c'est, je crois, l'être le plus lucide au monde, le plus équilibré et le plus fou en même temps, mais lucide. Et cette lucidité l'amène à la souffrance. Et c'est pourquoi cette souffrance dans Molière est si sacrée. Enfin, on a l'impression qu'elle révèle tout. Elle révèle tout parce qu'au travers de cette souffrance, dans les pires moments de crise que provoque la souffrance, sa lucidité est toujours là et tient un compte absolument exact des défauts et des qualités qui ont entraîné cette souffrance.
Jourdain avait la folie de la noblesse, Harpagon celle de l'argent, Arnolphe du cocuage. Dans Le Malade Imaginaire, Argan, persuadé d'être malade au dernier degré, a la folie de la médecine et des médecins. Et c'est Molière lui-même qui joue le rôle d'Argan.
C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies. Et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins.
Ce ne sont pas les médecins qu'il joue, mais le ridicule de la médecine.
C'est bien à lui, affaire, de se mêler de contrôler la médecine. Voilà un bon Nico, un bon impertinent, de se moquer des consultations et des ordonnances, de s'attaquer au corps des médecins et d'aller y mettre sur son théâtre des personnes vénérables comme ces messieurs-là.
Et il se fait dire ça, il fait demander à Bérald, son frère, Bérald lui demande, mais j'aurais bien aimé vous amener voir une des comédies de Molière pour vous désennuyer, et il y a une réplique où Molière hurle.
Je me vengerai bien de son impertinence, et quand il sera malade, je laisserai mourir sans secours. Il aurait beau dire et beau faire, je lui ordonnerai pas la moindre petite saignée, pas le moindre petit lavement, je lui dirai crève, crève. Ça t'apprendra une autre fois à te jouer à la faculté.
En parlant de lui-même, on se dit jamais, c'est Molière, qu'il crève, je lui donnerai jamais le moindre saignement, le moindre petit lavement, la moindre médecine, il se moque de la faculté, il n'a qu'à crever, il crève. Avec une violence. On peut le jouer, on peut l'adoucir, mais le texte est fort, quoi. Et ce gars-là, je ne sais pas à quel point,